est 4h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. 7h30 à Antananarive. Et bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes et à tous.
Pour Afrique Matin, 30 minutes d'actualité africaine qui débute à Madagascar.
À l'heure où Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les droits de douane, comment la grande île réagit-elle à la suspension des nouvelles taxes par Washington? Nous serons à Antananarive dans quelques instants. Un peu moins de deux ans après son coup d'état contre Ali Bongo, Brice Clotaire-Oligui Nguema, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de samedi au Gabon. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé hier les résultats provisoires. Il remporterait 90,35% des voix, très très loin devant Alain-Claude Bilibinzé et ses quelques 3%. La médiation de l'Union africaine entre la RDC et le Rwanda, qui a officiellement un nouveau visage, s'est fait. Le président togolais Faure Gnassingbé a succédé à l'Angolais Joao Lourenço. Une première sur la scène politique de Tanzanie, le principal parti d'opposition, le Chadema, exclu des prochaines élections générales. Une série de reportages exceptionnels après le journal sur les traces des exilés soudanais. Nous serons aujourd'hui au Tchad avant une édition spéciale demain sur RFI. Le Soudan entrera dans sa troisième année de guerre. Et puis des terrains plus légers également, bien sûr, avec l'actu sport comme tous les jours. Soyez les bienvenus sur RFI. À Madagascar, ce sont des droits de douane à hauteur de 47% qui avaient été annoncés pour les exportations vers les États-Unis. Mais vous l'avez probablement entendu sur la radio du Monde, l'administration Trump a finalement suspendu pour 3 mois l'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes, sauf pour la Chine. Pendant ce temps, les autorités malgaches espèrent bien négocier des taxes moins lourdes et en attendant, l'industrie malgache, elle, n'est pas rassurée pour autant, notamment les filières textiles et habillements. Dans les zones franches, les machines continuent pour l'heure de tourner, le carnet de commandes tourne aussi, mais dans une certaine confusion. Reportage à Antananarive avec Pauline Le Troquier.
Accoudée au comptoir d'une gargote de rue, blouse blanche encore ajustée, la latine vient de s'échapper de l'usine le temps d'une pause. La contremaître a construit toute sa carrière dans cette grande société de textile, mais la chef d'équipe refuse pour l'heure de s'alarmer de la situation, trop occupée à mobiliser ses troupes.
On n'a pas encore eu de commandes annulées, mais on sait bien que ça pourrait tomber dans les jours prochains. D'ailleurs, c'est déjà arrivé à plusieurs de nos concurrents. Alors, on accélère le rythme, on s'efforce d'honorer les commandes en cours et de les expédier au plus vite.
On a peur, mais actuellement, on ne garde pas cela dans nos têtes et on laisse faire les grands.
Ce midi, Ange quitte à son tour l'usine par une porte d'accès très surveillée. Ce cadre s'inquiète moins pour son propre poste que pour ceux, dit-il, de milliers d'ouvriers, des machinistes ou tricoteurs. Eux risquent de perdre le privilège d'un emploi formel à Madagascar.
Il y a les avantages sociaux quand on est malade. Ils prennent en charge quelques médicaments, tout ça. C'est ça qui est menacé parce que où vont se retrouver toutes ces personnes-là? Les machines-là, ce sont leurs vies, en fait. Et si on les retire, ils meurent avec leurs machines.
Les 180 000 travailleurs employés dans les entreprises de textile sur l'île sont désormais suspendus aux négociations. La filière pèse plus de 19% du PIB national. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
90,35% au Gabon. Voilà donc le score annoncé de Brice Clotaire-Oligui Nguema à la présidentielle qui s'est tenue samedi. Et lui qui a renversé Ali Bongo en août 2023, lui qui a présidé la transition. Il devance très largement les autres candidats selon les chiffres encore provisoires communiqués par le ministère de l'Intérieur. Loin devant l'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, crédité de 3%. Les 6 autres candidats ne dépassent pas 0,56%. 8 jours pour contester, désormais, s'il y a lieu, mais d'ores et déjà, le camp Oligui Nguema était naturellement à la fête. Hier soir, ils ont suivi cela à leur QG de campagne à Libreville. Sur place, reportage d'Yves Laurent Goma.
Arrivée triomphale de Brice Clotaire-Oligui Nguema et son épouse Zita au QG de campagne. Assis en face d'un écran géant, Oligui Nguema a suivi en direct la publication des résultats. La foule a exulté dès l'annonce de la victoire du général qui a mis une pause dans sa carrière militaire. L'euphorie a gagné les adeptes de l'ancien putschiste devenu président élu.
Il n'y a pas de char, le wifi passe 24 sur 24.
Les gens font comme si on était le 31 août, on attendait le 1er janvier. C'est quand même exceptionnel, c'est spirituel.
Nous sommes plus que satisfaits de ce qui est en train de se vivre et se passer au Gabon. Après près de 20 ans, c'est aujourd'hui qu'on participe à une élection sans enlèvement, sans agression, sans vol. sans bagarre entre les civils et les agents de sécurité. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau Gabon, c'est un Gabon d'espérance.
Dans une brève allocution, Oli Guinguema a demandé à tous les Gabonais de tourner la page de la campagne électorale et de reprendre le travail dès ce lundi pour bâtir le Gabon digne d'envie qu'il leur a promis. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Et avant de quitter le Gabon, un mot également sur la participation de samedi. Elle a été revue à la baisse comparée à ce qui avait été annoncé dans un premier temps. 70% des Gabonais se sont déplacés selon le ministère de l'Intérieur. Cette décision à présent qui crée la polémique en RDC, le renforcement du contrôle présidentiel sur les entreprises publiques. Désormais, aucun membre du gouvernement ne pourra suspendre de sa propre initiative un mandataire public. En effet, seul le chef de l'État, en l'occurrence seul le président Tshisekedi, pourra à présent valider les mesures disciplinaires. Une mesure qui serait toutefois illégale, à en croire l'analyse de Valérie Madianga, chercheur au CREFDL, le Centre de Recherche en Finances Publiques et Développement Local.
Cette décision, ça nous surprend. La Cour des comptes a mandat d'auditer les services publics, et voire même des entreprises publiques. Au cas où on constate une malversation financière, la Cour des comptes peut recommander la déchéance l'interpellation ou bien une sanction, peut solliciter une sanction au niveau du gouvernement à l'égard des mandataires publics. Lorsque le président de la République s'immisce dans la gestion des entreprises publiques, interfère dans les décisions, par exemple, des instances de contrôle, d'une manière ou d'une autre, pouvaient constater une mauvaise gouvernance, il y a un problème d'équité. Et cette décision-là n'est soutenue par aucun texte légal. Moi, je viens de parcourir tous les textes, mais nous pensons que c'est quand même mal placé, le président de la République est mal placé à interférer chaque fois dans la gestion des entreprises publiques.
L'analyse du chercheur Valérie Madianga en RDC. Il succède donc à João Lourenço à la tête de la médiation entre le Rwanda et la RDC, justement. C'est désormais officiel. C'est le président togolais Faure Gnassingbé qui reprend le flambeau de la médiation portée au nom de l'Union africaine. João Lourenço a souhaité se mettre en retrait. Il assure actuellement la présidence tournante de l'Union. C'est donc à son homologue, Faure Gnassingbé, que revient la lourde tâche de rapprocher les deux voisins, Florence Maurice.
Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, remercie l'Union africaine pour la confiance exprimée à l'égard du président togolais. Il assure que ce dernier contribuera activement, je cite, à la recherche d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. La tâche s'annonce difficile. Son prédécesseur, João Lourenço, a essuyé plusieurs revers diplomatiques. Depuis fin 2021, une demi-douzaine de trêves et cessez-le-feu ont été décrétés dans l'est de la RDC, tous rapidement brisés. La première étape pour le président togolais sera déjà de fusionner et d'harmoniser les deux processus de médiation existants, ceux de Luanda et de Nairobi, pour éviter une multiplication des canaux de discussion. D'autant que depuis plusieurs semaines, le Qatar conduit lui aussi, en parallèle et en toute discrétion, un processus de facilitation à Doha. C'est là que fin mars, à la surprise générale et après plusieurs tentatives avortées de la part de l'Union africaine, les présidents rwandais et congolais ont finalement accepté de se rencontrer.
Florence Maurice, de nouvelles tensions entre la France et l'Algérie. Une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères, la diplomatie française déplore qu'Alger réclame le départ sous 48 heures de 12 agents français. Selon le Quai d'Orsay, il s'agirait d'une réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants algériens juste avant le week-end. 3 hommes, dont un employé d'un consulat algérien, suspecté notamment de séquestration et d'enlèvement. Alger en parle comme d'un nouveau développement inadmissible et inqualifiable. La diplomatie française, elle, demande à Alger de renoncer à l'expulsion des 12 agents français. Arrivé hier soir au Maroc, quant à lui, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, effectue une visite de travail express 24 heures sur place. Alors que Paris et Rabat continuent de renforcer leur partenariat, Bruno Retailleau parlera notamment de coopération migratoire, de lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. Un petit séisme sur la scène politique de Tanzanie. Le principal parti d'opposition, la Chadema, exclut des prochaines élections générales. Et cela après avoir refusé de signer un code de bonne conduite électorale qu'il juge anticonstitutionnel. En 2020 et 2024, plusieurs de ses candidats avaient déjà été disqualifiés. Mais cette fois, Christina Okello, c'est une première, c'est tout le parti qui est écarté.
Il n'y aura pas de seconde chance, a prévenu la commission électorale tanzanienne. Les partis refusant de signer le code de bonne conduite sont désormais exclus de toutes les élections pour les 5 prochaines années. Sans être nommé, Chadema est clairement visé. Une décision illégale selon l'un de ses avocats, Rugemeleza Encha.
The commissioner Le président de la commission électorale n'a aucun pouvoir légal pour exclure un parti. C'est une décision arbitraire, contraire à la Constitution. Cette commission soi-disant indépendante agit en collusion avec le pouvoir pour verrouiller le processus électoral. Nous avons refusé de signer un code biaisé, taillé, pour favoriser le CCM. Nous appelons les partenaires internationaux à réagir et envisageons un recours en justice. Cette exclusion ne peut pas tenir.
Pour le gouvernement, Tchadema ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le docteur Abdullah Makame, député du parti au pouvoir CCM, affirme que le parti d'opposition s'est volontairement retiré du processus.
Tchadema a refusé de signer le protocole électoral préparatoire aux élections d'octobre, contrairement aux 17 autres partis. L'exclusion découle donc de leur propre retrait, en violation des règles fixées par la commission électorale.
Le député souligne que plusieurs réformes ont déjà été mises en œuvre pour garantir plus de transparence avec une commission électorale indépendante. Mais pour Tchadema, ces changements sont insuffisants. Le bras de fer est donc lancé à 6 mois de la présidentielle.
Christina Okello, un mot sur ce décès qui a été annoncé, celui du dramaturge béninois José Plilia. Il est décédé samedi à 58 ans à Miami, aux États-Unis. Ce franco-béninois qui a exercé de hautes fonctions dans le domaine de la culture dans les Caraïbes. Il a notamment dirigé José Plilia, l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et de développement. Et puis en 2016, le chef de l'État béninois, Patrice Talon, l'a nommé chargé de mission aux arts et à la culture. RFI, 6h41 ici à Paris. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent.
Afrique Matin sur RFI, Sébastien Duhamel.
Restez avec nous bien sûr sur la Radio du Monde, le prochain journal dans un peu plus de 12 minutes. Mais avant cela, on débutera une série de reportages exceptionnels pour comprendre le calvaire des Soudanais qui ont dû fuir la guerre. Ils sont près de 4 millions réfugiés hors des frontières de leur pays. On ira à leur rencontre au Tchad, notamment à la veille d'une édition spéciale demain matin sur RFI, 2 ans après le début du conflit soudanais. Il interpelle le président français pour que la France reconnaisse le rôle qu'elle a joué dans la mort de son père. On reçoit ce matin Daniel Oumniobé, le fils du leader indépendantiste camerounais Ruben Oumniobé. De nouvelles pièces de monnaie en Afrique centrale, un nouveau billet de 20 000 francs en Guinée. Du changement dans le portefeuille de nombreux consommateurs, ce sera notre rendez-vous avec l'économie. L'humeur de Maman, ensuite, et l'importance de distinguer l'information de la propagande en temps de guerre. Mais d'abord, loin de la guerre, c'est l'heure du sport. Et c'est avec vous Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Du foot et destin croisé en Angleterre, Salah record, Onana à l'écart.
L'Égyptien de Liverpool, vainqueur de West Ham 2-1 et auteur d'une passe décisive sur l'ouverture du score, Salah désormais impliqué sur 45 buts des Reds cette saison avec 28 buts et 17 passes. De quoi rapprocher Liverpool du titre avec 13 points d'avance sur Arsenal à 6 journées de la fin et 38 longueurs sur un Manchester United battu par Newcastle 4-1 sans André Onana dans les buts. Pris pour cible par certains supporters après son quart de finale raté de Ligue Europa, le Camerounais n'a même pas été convoqué par son entraîneur Ruben Amorim. De quoi laisser penser à une fin de saison compliquée pour Onana, Baptiste Leduc.
Si André Onana n'avait jamais expérimenté l'effet papillon, c'est maintenant chose faite. Sa provocation avant le quart de finale de Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais aurait pu rester sans conséquence, mais ses boulettes sur les buts lyonnais lui ont attiré des critiques. Après la rencontre, l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne semblait pourtant pas vouloir lâcher André Onana.
Cela peut arriver à n'importe quel joueur. Rien de ce que je dirais ne pourra l'aider. André garde toute ma confiance.
Sauf que le coach portugais a remis une pièce dans la machine ce week-end, alors qu'Onana n'avait pas manqué une seule minute de championnat depuis son arrivée à Manchester en 2023. Voilà qu'il s'est retrouvé assigné à résidence un week-end de match. Alors c'était pour se reposer officiellement, donc ce n'est pas encore une mise au placard, mais de nombreux supporters se demandent si le portier camerounais a les qualités requises pour rester numéro 1. Certains ont même repris la thèse de Nemanja Matic, le milieu lyonnais qui avait estimé qu'Onana était le pire gardien de l'histoire récente de Manchester United. En attendant de savoir s'il va retrouver sa place rapidement, André Onana peut au moins compter sur le soutien du syndicat des joueurs camerounais qui dénonce dans un communiqué le harcèlement subi selon eux par le portier des Lions Indomptables.
Baptiste Leduc et United qui est 14e du classement de Première Ligue et qui affrontera Lyon jeudi en quart de finale retour de Ligue Europa.
On suivra le résultat bien sûr sur RFI. Chez les jeunes, Antoine, la CAN U20 et tirage au sort de la nouvelle monture.
Après la défection de la Côte d'Ivoire, c'est l'Égypte qui accueillera la compétition. La Tunisie repêchée à la place des Ivoiriens a été versée dans le groupe groupe B avec le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Le Sénégal, tenant du titre, affrontera lui la RDC, la Centrafrique et le Ghana.
En basket, Antoine, la draft de la WNBA, le championnat féminin nord-américain, ce sera la nuit prochaine et Dominique Malonga devrait être l'une des sensations.
La franco-camerounaise de 18 ans, attendue en deuxième position par de nombreux observateurs. Née au Cameroun, la pivot a fait ses gammes à la pépinière Académie de Yaoundé. Le coordonnateur Yves Tsala exprime aujourd'hui sa fierté envers son ancien élève.
La pépinière a accueilli Dominique Malonga en 2013. Elle a effectué toutes ses classes jusqu'en 2018 avant donc son départ. Elle était déjà très en avance dans son temps parce qu'elle était surclassée, elle était dominante et on voyait qu'elle avait un énorme potentiel pour se développer. C'est une grande fierté de voir son parcours aujourd'hui, de voir la pépite qu'elle est devenue et nous n'en doutions pas avec toutes ses qualités. Une énorme fierté mais aussi la conviction que nous sommes sur le bon chemin malgré les moyens limités et de se dire que si on s'organise encore mieux avec un peu plus de moyens, on pourrait davantage fabriquer des talents.
Yves Tsala avec Joël Wadem, Dominique Malonga qui compte déjà 13 sélections avec l'équipe de France féminine de basket.
Le journal des sports signé Antoine Grenier sur RFI, on vous retrouve tout à l'heure. 4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale de ce lundi 14 avril 2025 et cette suggestion émise par le président ukrainien à Donald Trump, venir constater lui-même les conséquences de la guerre. Dans un entretien diffusé sur la chaîne américaine CBS, Volodymyr Zelensky appelle son homologue à se rendre en Ukraine pour voir les gens, les civils, les bâtiments détruits avant de reprendre des pourparlers de paix avec la Russie. Interview enregistrée avant la frappe dévastatrice sur la ville de Soumy. Au moins 34 personnes y sont mortes hier dans cette localité du Nord-Est. Attaque que Donald Trump qualifie lui-même d'horrible. Actualité électorale ce lundi. En Équateur, le président sortant Daniel Noboa revendique sa victoire face à la candidate de gauche Luisa González. Il obtiendrait plus de 56% des voix, mais son adversaire conteste ses résultats et demande un recomptage des votes. Nouvel épisode judiciaire pour l'ex-président sud-coréen. Le procès pour insurrection de Yoo Suk-yeol s'est ouvert tout à l'heure. Il lui est reproché d'avoir brièvement déclaré la loi martiale au mois de décembre dernier. Un acte qui lui a déjà valu d'être destitué de la tête du pays la semaine dernière. L'ancien dirigeant risque la réclusion à perpétuité. Et puis l'écrivain Mario Vargas Llosa qui nous a quittés. Il est mort, ses enfants l'ont annoncé il y a quelques heures. Il avait 89 ans, il s'est éteint à Lima, la capitale péruvienne. Lui qui avait décroché le prix Nobel de littérature en 2010. Des destins brisés. Au Soudan, la guerre entrera demain dans sa troisième année avec des conséquences terribles pour la population qui vit ce calvaire. On le voit notamment au Darfour où les paramilitaires FSR revendiquaient hier la prise du grand camp de déplacés de Zamzam. Au total, ce conflit fratricide a déjà provoqué le déplacement de près de 13 millions de personnes, dont 4 millions hors des frontières du Soudan. Et sur RFI, on débute justement ce matin une série de reportages sur leurs traces, ceux qui ont passé la frontière pour se réfugier. Au Tchad notamment, ils sont plus de 600 000 venus s'ajouter à plus d'un demi-million de Soudanais qui avaient fui lors du précédent conflit au Darfour en 2003-2004. Alors, comment faire face aujourd'hui à un tel afflux? Comment accueillir ces hommes, femmes et enfants qui ont tout perdu? Igor Strauss nous emmène au poste frontière tchadien d'Adré.
Vous voyez les chariots là? Tout est plein, 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 plein.
Tout ça, c'est des Soudanais qui viennent, quoi.
Des Soudanais qui viennent.
Ce matin, comme tous les matins depuis des mois, des centaines de réfugiés exténués, traumatisés, font la queue pour être enregistrés au CENAR, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés. Mahamat travaille pour cet organisme tchadien.
Ce matin, moi personnellement, j'ai vu des femmes avec des enfants mineurs. Donc ils disent que là-bas, il n'y a pas une sécurité totale, il n'y a pas la paix.
Est-ce que vous avez des témoignages qui vous ont marqué particulièrement, vous?
Tu trouves quelqu'un qui est devant toi, elle est en train de pleurer, agressée par des hommes ou bien des viols. Tu vois, c'est inhumé, quoi.
Les femmes et les enfants représentent près de 90% des réfugiés soudanais. C'est pourtant un jeune homme que me présente Mahamat.
Voilà, ce matin, on a reçu un monsieur Mustafa Adam Idriss. Il a reçu éclat au niveau du Soudan pendant un bombardement de Janjaweed.
Ça s'est passé à Omdurman. L'attaque a eu lieu le soir, c'est-à-dire après la prière de Asr. Il y a eu des cas de mort, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui sont fracturés, il y a eu des gens qui ont perdu leurs jambes.
Vous savez pourquoi vous avez été attaqué?
Ils disent pour rien, ils sont pour le piller.
Des hommes blessés, des femmes violées, des destins brisés. Difficile dans ce contexte d'organiser la cohabitation. Ali Djimé, manager d'un camp d'Adré.
Le conflit au Soudan, certes c'est un conflit politique, mais ça s'est transformé en conflit ethnique. Un conflit entre les Arabes et les Masalites. Et pour éviter qu'il y ait encore un conflit ici dans le camp, on les sépare.
Les Arabes sont donc envoyés dans des camps près d'Abéché, les autres à Farshana, 50 km à l'ouest d'Adré. On retrouve Mahamat en compagnie de quatre femmes soudanaises.
Ils disent qu'ils sont des Soudanais, ils sont arrivés au Tchad, encore ils retournent là-bas, parce que leur famille se trouve derrière là-bas, ils ne peuvent pas rester.
Bravant la peur et le danger, certains retournent au Soudan pour des raisons familiales, les autres restent au Tchad dans des conditions très précaires. Le retrait de l'aide américaine a eu des conséquences dramatiques, des projets d'irrigation ont été stoppés net, tout comme le soutien psychologique aux réfugiés, Ali Djimé.
On fait un appel à tous les bailleurs pour pouvoir prendre en charge ces réfugiés qui sont vraiment dans le détresse.
Un message tel un SOS pour les victimes d'un conflit oublié. Igor Strauss, de retour d'Adré, RFI.
Un reportage au poste frontière d'Adré au Tchad face à l'afflux des exilés soudanais. On continuera cette série demain au Kenya qui accueille également des Soudanais ayant fui la guerre. Après-demain, nous serons au Soudan du Sud. Il est né dans le maquis camerounais en 1957, un an tout juste avant que son père ne soit assassiné par l'armée française. L'invité de la rédaction Afrique ce matin sur RFI est Daniel Niobé, le fils du leader indépendantiste Ruben Niobé. Un peu plus de deux mois après la sortie d'un rapport très commenté sur le rôle de la France dans la répression violente des mouvements indépendantistes camerounais, il interpelle le président français pour que Paris assume ses faits et reconnaisse sa responsabilité dans la mort de Ruben Niobé et de ses camarades. Daniel Niobé, son fils, répond à Florent Maurice.
Il y avait trop de faux billets de 20 000 francs guinéens. C'est l'explication principale de la Banque centrale de la République de Guinée.
Petite erreur. Ça, c'est l'Afrique économique qu'on entendra tout à l'heure sur le changement qui a eu lieu dans les portefeuilles de pas mal de consommateurs sur le continent. Mais on va d'abord entendre notre invité du jour, Daniel Niobé, qui est donc le fils du leader indépendantiste Ruben Niobé.
Bonjour Daniel Niobé.
Bonjour madame.
Suite à la publication du rapport de la commission Cameroun, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui?
C'est la reconnaissance des faits, la responsabilité du gouvernement français de l'époque dans ce qui s'est passé. Et éventuellement présenter des excuses et mettre en place un processus de réparation. Sinon, ça va être une histoire politicienne.
Cette histoire, c'est aussi la vôtre, puisque vous êtes né dans le maquis un an avant l'assassinat de votre père.
De l'attaque du 13 septembre 1958, j'y reste le seul survivant. Donc ce jour-là, non seulement Podo le Ruben Niobé a été assassiné, mais son plus proche collaborateur Yembak a été assassiné. Ma grand-mère maternelle, Ruth Ngonkam, a été assassinée. Et il faut dire qu'au moment de l'assassinat, j'étais à côté d'elle. Et ce qui fait que j'ai ramassé une balle. Symboliquement, je me dis, dans le drapeau, le rouge du drapeau camerounais, c'est aussi mon sang qui est versé.
Vous avez mis plusieurs années à oser aller vous recueillir sur sa tombe?
Oui, c'était interdit. On y allait la nuit, clandestinement, mais c'était interdit. Mais ça avait une valeur pour moi.
Est-ce que vous avez envisagé de changer de nom?
Non, surtout pas. Surtout pas. C'est une fierté pour moi.
Entretien de Florence Maurice avec Daniel Niobé à retrouver plus en longueur dans une cinquantaine de minutes sur RFI. Et d'ici là, on l'a un petit peu entendu déjà, du changement dans les portefeuilles pour notre rendez-vous avec l'économie. De nouvelles pièces qui ont été émises par la Banque des États d'Afrique centrale, un nouveau billet de 20 000 francs guinéens en ce mois d'avril. Oui, de nouvelles espèces ont fait leur apparition dans plusieurs pays et plusieurs raisons sont évoquées pour l'expliquer, Alexis Bédu.
Il y avait trop de faux billets de 20 000 francs guinéens. C'est l'explication principale de la Banque centrale de la République de Guinée. Un nouveau billet est entré en circulation, plus fiable, plus moderne selon la BCRG. Cela peut avoir des effets néfastes, explique Safaïou Diallo, économiste guinéen, parce que deux types de billets de 20 000 francs sont désormais utilisés sur les marchés, l'ancien et le nouveau.
Compte tenu du fait qu'on a un secteur informel qui est très développé, beaucoup de personnes risquent d'interpréter comme quoi ces nouvelles coupures sont celles qui seront utilisées désormais dans les transactions et que les anciennes risquent de ne pas trop passer. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète en tant que tel.
L'objectif n'est pas d'injecter plus d'argent dans l'économie. Ce nouveau billet est juste censé remplacer les billets usés et trafiqués. Mais le risque d'une dévaluation et d'une inflation existe selon Safaïou Diallo.
Ce qui soutient la valeur d'une monnaie, c'est la production. Lorsque la production ne tue pas, la monnaie émise de trop risque d'avoir des conséquences inflationnistes. Et tout le monde connaît que l'inflation a des conséquences néfastes, notamment la perte du pouvoir d'achat. Et c'est cela qui m'inquiète en quelque sorte à ce niveau.
Côté BEAC, ce qui a motivé le lancement d'une nouvelle gamme de pièces, c'est la pénurie persistante. Il y aura donc la mise en circulation de 9 nouvelles pièces de 1 à 500 francs CFA pour les 6 pays membres et surtout la création d'une pièce de 200 francs CFA.
C'est une bonne chose, mais seulement le revers est que cette pièce de monnaie va créer ce qu'on appelle une inflation mécanique.
Alphonse Dongo est analyste économique à Brazzaville.
Les prix de certaines petites marchandises qui sont compris entre 150 francs CFA et 195, il y a forcément la possibilité pour certains commerçants vont faire passer ces prix tout simplement à 200 francs CFA. Donc pour moi, cette nouveauté risque de déboucher sur des plaintes inflationnistes.
Les anciennes pièces de francs CFA sont particulièrement prisées, notamment en Asie, pour la fabrication de bijoux. L'alliage de ces nouvelles pièces est différent, elles n'auront donc pas la même valeur, ce qui devrait atténuer les exportations depuis la sous-région.
Dossier Afrique est co-signé Alexis Bédu, 6h55 à Paris. Avant de retrouver Andréane Mélard pour RFI Matin, l'humeur de Maman qui nous parle de temps graves ce matin, les temps de guerre durant lesquels il faut savoir faire le tri, nous dites-vous Maman, entre l'information et la propagande.
Oui, au Gondwana, on dit que la propagande, c'est quand chacun voit midi à sa porte et veut convaincre les autres que chez eux aussi il est midi et partout ailleurs. Et qu'il est midi tous les jours et que d'ailleurs, midi est la seule heure qu'il y a sur la montre. Et que si tu dis qu'il n'est pas midi, c'est que t'es de mauvaise foi et qu'il faut te combattre, te condamner, t'excommunier. La propagande, c'est quand quelqu'un entre chez toi de force en tirant, bombardant, cassant tout sur son passage, tu hurles à l'agression et à l'invasion, mais lui dit que c'est une opération militaire spéciale ou juste une intervention et il n'en démord pas. Du coup, mais chacun verra midi à sa porte et l'observateur neutre, quand il en reste, saura qui parle et d'où quand il entendra quelqu'un dire d'une invasion que c'est juste une intervention ou une opération militaire spéciale et d'une intervention que c'est une intolérable agression. La propagande, c'est le fait de regarder une pièce de monnaie et de prétendre que pile et face est pile et puis c'est tout. Par exemple, c'est le fait de montrer des hommes armés sur un terrain de guerre sans uniforme reconnaissable d'un camp ou de l'autre et de dire que c'est des instructeurs ou des combattants volontaires parce qu'ils sont de ton camp. Mais par contre, c'est le fait de les traiter de mercenaires quand ils sont de l'autre camp. Dans propagande, il y a pro. Chacun est pro quelque chose ou pro quelqu'un, mais rarement pro vérité. Et ça marche partout, hein, dans tous les domaines. Par exemple, quand quelqu'un dit que Lionel Messi est surcoté, qu'il a usurpé ses ballons d'or et qu'il n'est même pas dans le top 5 des meilleurs footballeurs de tous les temps, ben tu peux être sûr que c'est de la propagande venant d'un pro Cristiano Ronaldo. Et inversement, la propagande des pro Messi prétendra que si Cristiano Ronaldo ne tirait pas les pénaltys, eh ben jamais il n'aurait eu le total de buts dont il se vante aujourd'hui. D'où le surnom que lui donnent les pro Messi, Cristiano Penaldo. La propagande, c'est quand t'as des bombes qui tombent sur un pays faisant leur travail de bombe, c'est-à-dire des victimes à profusion et des dégâts à gogo, et que dans un camp, on dit que c'est des bombardements criminels et de l'autre, on dit que c'est juste des frappes aériennes comme si c'était une frappe de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. La propagande, c'est quand des gens défendent vaillamment leur pays avec les moyens de bord. D'un côté, on dit que c'est de courageux résistants et de l'autre, on les traite de dangereux terroristes. C'est ça la propagande. Dans la guerre sociale, elle est là aussi, hein, la propagande. Quand les salariés parlent de cotisations sociales, les employeurs parlent de charges sociales qui leur cassent le dos. Dans la propagande, que tu le veuilles ou pas, mon ami, que tu le saches ou pas, ben tu peux te retrouver dans la face éclairée de la lune ou alors relégué d'office dans sa face sombre sans espoir d'en sortir un jour. À demain.
À demain, Maman. Merci à Laurent Hérault qui était à la réalisation, Édouard Dupénoit à la rédaction en chef. On salue ce matin Jerry Clark Wanetton qui nous écoute depuis le PK15 en Centrafrique. Il nous a écrit sur l'adresse afriquematin@rfi.fr. On le remercie, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Tout de suite, c'est RFI Matin qui débute et c'est avec vous, Andréane Mélard. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver ce matin, lundi 14 avril 2025. On est ensemble jusqu'à 10h heures. 3 heures d'infos, chroniques, reportages invités ce matin. Au programme des élections au Gabon, en Équateur, l'Ukraine, le Proche-Orient, les États-Unis, la guerre commerciale, mais aussi la mort d'un géant de la littérature, le foot, la presse internationale. Bienvenue à vous tous dans 30 secondes, le journal Eléa Boutin-Rivière.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.